Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment conjurer l'angoisse? Comment tromper le désespoir? En commençant par les prendre au sérieux et ne pas les reléguer aux problèmes secondaires, à des tourments psychologiques sans effet. Le philosophe Kierkegaard vous propose un remède que l'on va tester pour vous, avec vous, aujourd'hui. Pour ne plus désespérer, il faut vraiment désespérer. Allez en route sur les chemins de la philosophie et haut les cœurs.
Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive. La gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille. Au creux des reins, le mal vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vivre, vaille que vivre, on peut le mettre en bandoulière ou comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière. Ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal.
Bonjour Alain Cugnot.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Vous êtes philosophe, vous enseignez au Centre Sèvres et au Collège des Bernardins à Paris. Est-ce que le mal de vivre, décrit par Barbara, a un point commun avec le désespoir, selon Kierkegaard?
Oui, bien sûr. Parce que tout mal de vivre, et même, enfin tout, l'intégralité de ce que nous vivons, a un rapport, positif ou négatif, avec le désespoir. Et le désespoir est vraiment le fond sur lequel nous vivons la plupart du temps sans nous en rendre compte. Mais justement, le fait de ne pas désespérer est une forme extrêmement subtile, mais extrêmement commune, de désespoir, et de désespoir plus difficile à déceler, évidemment, puisqu'il se cache.
Vous avez une lecture singulière de Kierkegaard, c'est que pour vous, Kierkegaard est un penseur beaucoup plus optimiste que ce qu'on croit.
Ah ben oui, bien sûr, oui. Il y a un optimisme fondamental chez Kierkegaard. Le désespoir, enfin, il le dit plusieurs fois, il le répète. Il dit que ce n'est pas la peine de le répéter, mais qu'il va quand même le répéter. Il le fait bien, puisque on ne l'entend pas. Mais pour lui, le désespoir, c'est ce qu'il appelle le péché. C'est pire que la mort. Et c'est ce à quoi il faut échapper, ce qu'il faut vaincre. On ne peut même pas dire surmonter, parce que dans la proposition de surmonter le désespoir, il y a quelque chose de volontariste. Mmh. Et dans le volontarisme, il y a un désespoir qui s'ignore. C'est tout à fait différent ce qu'il propose. C'est une sorte d'acquiescement complet à l'existence.
Comment passer du mal de vivre à la joie de vivre, là encore?
Et sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin. Ça s'est promené de rive en rive, de rire en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille, au creux des reins. La joie de vivre.
Alors nous avons un peu moins de 50 minutes ensemble Alain Cugnot pour esquisser la direction à suivre pour passer du désespoir à la sortie du désespoir. Est-ce vraiment l'équivalent du passage du mal de vivre à la joie de vivre? Vous dites que ce n'est pas une affaire de volonté. Barbara chante, et bien un matin on se réveille et c'est la joie de vivre qui est là. Est-ce que ça se passe comme ça chez Kierkegaard?
Ça, c'est extraordinaire comme analyse, parce que c'est vrai qu'on ne se donne pas la sortie du désespoir. Elle advient, elle survient, et elle est la réconciliation absolue avec soi-même et l'absolu. Voilà, hein, c'est ça le
programme.
Le programme à réaliser. Enfin non, quand je dis à réaliser, je suis encore dans le désespoir, puisque je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors qu'en réalité, il n'y a pas tant à faire qu'à effectuer ce que Kierkegaard appelle le saut. On va dire le saut de la foi. Alors là, il faudrait vraiment préciser, parce que c'est tellement connoté, ce terme de foi, que finalement, on ne sait plus ce que ça veut dire. Chez Kierkegaard, la foi est vraiment la chose la plus essentielle. C'est ce en quoi nous croyons profondément, irréversiblement, et qu'il n'est pas toujours facile de découvrir en soi-même. Enfin, savoir en quoi je crois, eh bien, je ne peux pas le savoir d'un savoir explicite. Je peux risquer à dire, oui, semble-t-il, j'ai la foi. Mais je ne peux pas en avoir la certitude, parce que c'est une certitude tellement profonde qu'on ne peut pas remonter en amont. Elle est l'amont le plus absolu qu'on puisse concevoir. Donc, à partir de là, est-ce que j'ai la foi, est-ce que je ne l'ai pas? Est-ce que je fais semblant d'avoir la foi, ou est-ce que je l'ai vraiment? Impossible de discerner. En revanche, je peux en parler. Et je peux écrire des choses, je peux faire de la philosophie. Mais le philosophe est celui qui dit, en général, la vérité. Il n'est pas sûr qu'il comprenne ce qu'il dit et ce qu'il pense jusqu'au bout. Voilà.
Nous voilà bien avancés.
En quelque sorte, on a plutôt reculé.
Voilà, c'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a d'issue possible que dans la d'issue possible hors du désespoir, j'entends, que dans la reconnaissance de cette foi en nous que nous ne parvenons pas à nommer, que nous ne pouvons pas forcément décrire, et qui n'est pas forcément, en toute logique, une foi en Dieu d'ailleurs. C'est l'existence même de la foi.
Elle est une foi en Dieu.
Tout dépend de ce qu'on entend par Dieu.
Tout dépend de ce qu'on entend par Dieu. Et alors, peut-être que la définition que nous pouvons donner de Dieu, et qui n'est pas exactement une définition religieuse au sens courant du terme, Dieu est mon origine. Et quand Kierkegaard dit cela, il parle de quelque chose de très précis, qui est ce qu'il appelle le moi. Mais quand on dit le moi, on a déjà fait un pas de côté, parce que je ne connais qu'un moi qui est le mien. Et la chose la plus extraordinaire l'événement le plus fondamental, le plus extraordinaire, c'est que être moi soit justement tombé sur moi. Et ça, nul ne peut en rendre compte. Voilà. Alors, Dieu, pour Kierkegaard, c'est l'absolu, c'est la puissance absolue qui m'a inventé, alors que nul ne pouvait penser à moi avant que je n'existe. Personne ne pouvait me viser au XVIIIe siècle, par exemple. Mes ancêtres du XVIIIe siècle savaient peut-être qu'ils auraient une descendance, mais ils ne pouvaient pas me viser, moi, comme cet être qui se trouve aujourd'hui à France Culture et qui vous voit. Voilà, ça c'est quelque chose dont rien, absolument rien, ne peut rendre compte.
Et pourquoi a-t-on besoin de Dieu pour essayer d'en rendre compte ce que vous l'êtes, avec ou sans Dieu?
Je le suis avec ou sans Dieu, mais puisque j'en... Alors, ce serait très compliqué de montrer tous les linéaments que cela implique, mais puisque j'en prends conscience, c'est donc que je ne suis pas seul. Et qu'il y a un fond, un arrière-fond, qui est précisément ce qui m'a inventé.
C'est Descartes. L'idée de l'infini ne peut exister dans mon esprit que parce qu'un être infini y a déposé.
Il y a un moment pré-kierkegaardien chez Descartes, c'est la méditation 3.
Dans les méditations métaphysiques, donc
dans
la troisième.
Dans les méditations métaphysiques, la méditation 3. Donc il est sorti de l'incertitude, et Descartes a trouvé une certitude, et il démontre qu'au fond, ce qui fonde la possibilité de dire « je pense, je suis », ce qui est vraiment là et qu'il prend en considération, c'est que l'idée de parfait est en lui. Et là, il se rend compte qu'il n'a pas d'autre fonction, en quelque sorte, que de s'apercevoir que l'idée de parfait est en lui, c'est-à-dire qu'il y a plus en lui qu'il ne pensait. Et il se met à jubiler. Relisez la fin de la troisième méditation.
On en a parlé il y a
dit qu'il éprouve le plus grand plaisir qu'on puisse éprouver en cette vie, la plus grande jouissance qu'on puisse éprouver en cette vie. Donc oui, il y a quelque chose qui est en commun, mais la préoccupation fondamentale de Descartes, c'est de fonder les sciences, de fonder la certitude, alors que chez Kierkegaard, c'est très très différent. La grande préoccupation, c'est justement de sortir du désespoir.
Alors, deux ouvrages vont nous accompagner aujourd'hui, le Concept de l'angoisse, écrit en 1844, et le Traité du désespoir, traduit aussi par La maladie à la mort.
La maladie à la mort.
5 ans plus tard, on est dans des travaux, des textes plus tardifs de Kierkegaard.
Si vous dites le Traité du désespoir à un kierkegaardien, il essaye immédiatement de vous arracher les yeux.
D'accord. J'en déduis que vous n'êtes pas un kierkegaardien ou alors très tolérant.
Oui. J'espère. En réalité, ça n'est pas une traduction si catastrophique que ça, mais c'est vrai que le titre danois dit « la maladie jusqu'à la mort », enfin « la maladie à la mort », en faisant référence à un passage qui est en Luc, et qui parle de « cette maladie n'est pas la mort », etc. Donc voilà.
Alors on va commencer par distinguer de manière conceptuelle, hein. On essaye de procéder de manière philosophique, à défaut peut-être de pouvoir nommer cette foi dont vous parlez. En tout cas, procédons comme Kierkegaard. On va définir ce qu'est l'angoisse, puisque c'est le premier pas à franchir, hein. Kierkegaard est le philosophe du saut, il faut avancer, faire un pas, le saut de la foi ou le saut vers l'ailleurs. L'angoisse qui est donc la première chose dont il faut prendre conscience pour ensuite peut-être parvenir au désespoir et ensuite peut-être parvenir à en sortir. Voici un extrait donc du Concept de l'angoisse, 1844, dans lequel Kierkegaard compare l'angoisse au vertige. Écoutez.
On peut comparer l'angoisse au vertige. Quand l'œil vient à plonger dans un abîme, on a le vertige, ce qui vient autant de l'œil que de l'abîme, car on aurait pu ne pas regarder. De même, l'angoisse est le vertige de la liberté, qui naît parce que l'esprit veut poser la synthèse et que la liberté, plongeant alors dans son propre possible, saisit à cet instant la finitude et s'y accroche. Dans ce vertige, la liberté s'affaisse. La psychologie ne va pas jusque-là et refuse d'expliquer outre. Au même instant, tout est changé. Et quand la liberté se relève, elle se voit coupable.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h13. Nous parlons de Søren Kierkegaard cette semaine et aujourd'hui de l'angoisse et du désespoir, deux concepts clés dans sa pensée, en compagnie du philosophe Alain Cugnot, en 6 lignes, ici, interprété par le comédien Yvan Morane. Le problème est posé, Alain Cugnot. Hein. Avec cette définition, on peut partir de là et on verra dans quel sens ensuite ça nous amène à la culpabilité. L'angoisse est le vertige de la liberté. Nous angoissons parce que nous sommes libres.
Nous angoissons parce que nous sommes libres et notre liberté elle-même est absolument impossible à séparer de ce vertige qui est justement ce que nous éprouvons devant le vide. Et l'angoisse va naître en nous parce que nous découvrons que le possible excède considérablement ce que nous pouvions penser qu'il pouvait être. C'est, au fond, le vertige est devant le possible. Et cette capacité que nous avons d'être fascinés par la possibilité, elle est, chez Kierkegaard, fondée sur une affirmation que Dieu est l'être même du possible. Là où il y a du possible, il y a de la divinité. C'est très impressionnant de se trouver en face de l'absolu, alors qu'on pensait être un être fini, de découvrir que nous ne sommes pas seulement des êtres finis, nous sommes des êtres finis, mortels, etc. Mais il y a en nous également quelque chose qui croise l'éternité, quelque chose qui croise l'absolu, quelque chose qui nous dépasse infiniment. dont nous ne sommes absolument pas les maîtres, mais qui justement va nous désigner comme étant les maîtres du jeu, alors que nous ne savons pas même s'il y a des règles du jeu. Et c'est ça le vertige, et c'est ça qui va se transformer immédiatement, qui va s'éprouver sous la forme de la culpabilité. La question la plus fondamentale, la question que nous rencontrons peut-être en premier, même dans notre expérience de la vie d'enfant que nous avons eue, ça n'est pas pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, comme disaient Leibniz et Heidegger. La première question que nous rencontrons, c'est est-ce que j'ai le droit de vivre ? Est-ce que je suis légitime dans ma prétention à exister ? Et c'est, je crois, une expérience que les enfants font d'une manière très redoutable, qui s'appelle la timidité des enfants. C'est une inassurance, une incertitude quant à la légitimité de leur propre existence. Et c'est le moment où ils découvrent effectivement leur liberté, qui est une possibilité d'être fasciné justement par la possibilité.
Ce qu'il y a de passionnant en vous écoutant Alain Cugnot, c'est que on comprend que pour Kierkegaard, et ça c'est très rare, et notamment chez les philosophes, la réflexion conceptuelle n'exclut pas la psychologie, la prise en compte de la psychologie.
Non.
Au contraire même. C'est le sous-titre du livre hein, de La maladie à la mort, c'est essai de psychologie chrétienne.
Et c'est de psychologie chrétienne. Et le mot psychologie ici, bien sûr, n'a pas le sens de la psychologie
contemporaine.
Bien sûr, même dans le texte qui a été lu, la psychologie ne va pas jusque-là, dit-il.
Oui.
La psychologie, c'est les aventures de l'esprit. Et au fond, c'est une acception du terme très proche de celle que Nietzsche emploie quand il dit qu'il est temps que la psychologie revienne au fondement de la réflexion. Parce que cette psychologie, elle n'est pas seulement quelque chose qui nous arrive, c'est le dévoilement de la racine de toute chose.
Il faut le prendre au sens étymologique. Hein. Psychologie, c'est le discours
c'est
de l'âme.
C'est le logos de la psyché.
Voilà.
C'est le logos de l'âme. Et peut-être l'âme ne suffit pas à désigner ce dont parle Kierkegaard. Il faut dire, je pense, esprit. Mm-hmm. Et quand il parle de l'esprit, il parle justement de cette singularité absolument radicale dont rien ne peut rendre compte et qui pourtant est une évidence, et même la seule évidence absolue, voir ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Descartes.
Alors, encore un instant sur l'angoisse avant d'en arriver au désespoir. L'angoisse n'est pas la peur.
Non. Non, non, la peur, c'est trop facile. Enfin, la peur, c'est quelque chose de psychologique. La peur, c'est les analyses de Heidegger sur la distinction entre peur et angoisse viennent très directement, et il le reconnaît d'ailleurs, hein, de Kierkegaard. La peur a un objet, il y a quelque chose qui me fait peur. Dans le cas de l'angoisse, ce qui me fait peur, c'est d'être au monde, c'est d'avoir été jeté dans le monde, c'est d'être, de m'être un jour éveillé et de m'être aperçu que j'existais. Ce qui est terrible. Et pourtant extrêmement banal. Enfin, moi, je me souviens très très bien du moment où je m'en suis aperçu. Et je crois que tous les enfants font cette expérience. C'était dans le jardin de ma grand-mère. Et je me suis aperçu que j'existais, que c'était infiniment redoutable. Ça n'a pas été une expérience heureuse. Ça a été une expérience un peu terrorisante. Je ne peux pas dire que je me suis éprouvé comme coupable à ce moment-là. Hein. Je n'ai pas été kierkegaardien immédiatement. C'est quelque chose qui renvoie à une profondeur dépassant toute psychologie, toute et peut-être même toute phénoménologie, mais qui est à la racine de la racine.
C'est-à-dire toute tentative de décrire les choses telles qu'elles sont. Alors comment passe-t-on de cette expérience de l'angoisse au constat ou à l'évidence de notre culpabilité ? Est-ce le Kierkegaard chrétien qui sait l'homme pécheur de naissance, qui analyse la transmission du péché originel depuis l'acte d'Adam et Ève, ou est-ce que cette culpabilité est le revers nécessaire d'une liberté ?
Je pense que c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne, et que pour Kierkegaard, nous rejouons continuellement. Nous pourrions ne pas désespérer. Nous pourrions nous contenter d'exister, de nous apercevoir que nous existons, de nous réconcilier avec nous-mêmes et de vivre une vie qui serait une vie plénière, pleinement humaine d'ailleurs, indiscernable à l'œil nu de toute autre existence, mais une vie qui serait sans culpabilité, ce serait possible. Hein, mais ça ne marche pas ainsi. À
alors
chaque fois, nous rejouons ce qui a été décrit comme péché originel. Mais il n'y a pas de... Le péché est une position, dit Kierkegaard. C'est-à-dire, il est vraiment quelque chose qui se pose. Quelque chose que nous inventons, que nous réinventons à chaque fois.
C'est l'autre nom du mal, le péché. En fait, ce que Kierkegaard décrit, c'est la possibilité de faire le mal.
C'est la possibilité de faire le mal. C'est aussi la possibilité de... et c'est la même chose, de ne pas s'accepter soi-même. Les deux choses...
De ne pas s'accepter soi-même.
Oui, oui, oui. Les deux choses sont... radicalement lié chez lui, très curieusement. Mais c'est d'une profondeur inouïe, et ce n'est pas le plus facile à comprendre.
L'homme est esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit ? C'est le moi. Mais alors, le moi ? Le moi est un rapport se rapportant à lui-même. Ou plutôt, le moi n'est pas le rapport, mais le retour sur lui-même du rapport. L'homme est une synthèse d'infini et de fini, de temporel et d'éternel, de liberté et de nécessité. De ce point de vue, le moi n'existe pas encore. Dans un rapport entre deux termes, le rapport entre en tiers, comme unité négative. Un tel rapport ainsi dérivé ou posé est le moi de l'homme. C'est un rapport qui se rapporte à lui-même et se faisant à un autre. De là vient qu'il y a deux formes du véritable désespoir. Si notre moi s'était posé lui-même, il n'en existerait qu'une. Ne pas vouloir être soi-même, vouloir se débarrasser de son moi, et il ne saurait s'agir de cet autre, la volonté désespérée d'être soi-même. France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h23, nous parlons de Kierkegaard. Je viens de lire un extrait du traité du désespoir, c'est-à-dire La maladie à la mort, Alain Cugnot. Donc un texte tardif de Kierkegaard dans lequel il analyse les composantes, y compris psychologiques, de ce que nous nommons le désespoir et il identifie comme cause première le rapport au moi, la difficulté d'être soi et la difficulté à devenir soi. Parce que c'est deux choses qu'il distingue.
Oui, mais c'est un texte que c'est le texte que vous venez de lire, il est absolument extraordinaire. Je n'en connais pas l'équivalent dans le reste de la philosophie.
À ce point.
À ce point. Qu'est-ce que l'homme, c'est un esprit ? Qu'est-ce que l'esprit ? C'est le moi. Qu'est-ce que le moi ? C'est un rapport qui se rapporte à lui-même. Alors, on comprend. Jusque-là, on comprend. Bon, être en rapport, c'est être en rapport avec quelque chose. C'est au fond très proche de l'intentionnalité husserlienne. Hein, je suis en rapport avec, c'est-à-dire ma conscience vise quelque chose. Le chat est en rapport avec la musaraigne, par exemple. Mais le chat n'a pas de moi au sens où Kierkegaard, vous-même et moi-même avons un moi. Être en rapport avec quelque chose, ça n'est pas encore... être en rapport avec ce rapport lui-même. Et c'est ça, notre grande originalité d'être des humains. Mais quand je dis être des humains, j'englobe des singularités qui sont les seules choses existantes, ce sont les singularités. Lorsque je dis, non seulement je suis en rapport, mais je suis en rapport avec le rapport, Kierkegaard dit normalement un rapport c'est entre deux termes et le rapport est un tiers neutre entre les deux. Non, Là, c'est le rapport lui-même qui se rapporte à lui-même et qui est premier, originaire. À ce moment-là, de deux choses l'une. Ou bien je me suis inventé moi-même. Ou bien je ne me suis pas inventé moi-même. Il ne faut pas 30 secondes pour s'apercevoir que non, je ne me suis certainement pas inventé moi-même. Donc j'ai été inventé par un autre. Alors on peut laisser la question de côté, pour le moment, mais se dire, quand je dis « je ne me suis pas inventé moi-même », je dis quoi ? Je dis cette chose absolument incroyable, « je me suis reçu moi-même, je me suis constaté, je suis pour moi-même l'objet d'une constatation ». Et au même moment où je m'aperçois que je suis moi-même, je ne le fais pas, je ne peux pas le faire froidement. Je suis obligé d'éprouver ce vertige de l'angoisse, parce que ça fait qu'un avec ce moment. Et au moment où j'éprouve le vertige de l'angoisse, j'éprouve la possibilité de dire « j'aurais bien voulu être un autre quand même ». Et j'éprouve également la possibilité de dire « j'aimerais bien être moi-même jusqu'au bout ».
Et là, qui sont deux choses différentes, mais simultanées.
Simultanées, oui. Enfin, ça peut être simultané, mais ça peut être aussi ou l'un ou l'autre. Tout est possible. Hein. Il y a toute une typologie qu'on peut développer. Mais en tous les cas, il y a ces deux formes fondamentales qui reviennent au même finalement. C'est que je peux dire, qu'est-ce qui m'a flanqué à moi pareil, qui n'est même pas capable d'être César. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour n'être que moi-même. Et à ce moment-là, j'ai la tentation de me dire, mais comme j'aimerais être l'un des autres. Parce que ça a l'air d'être reposant d'être un autre. Ils ont l'air d'être complètement ce qu'ils sont, ils ont l'air de savoir ce qu'ils veulent. Ils ont l'air, quand on les voit passer dans la rue, ils ont l'air d'aller vers un but. Ils font une tête plus ou moins heureuse, mais enfin, ils sont quelque chose. Alors que moi, en même temps, je m'éprouve comme étant à la fois consistant, évidemment, mais en même temps totalement démuni par rapport à ce fait que j'ai un moi qui m'est tombé dessus et je ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Or, j'aimerais pouvoir adhérer complètement au moi que je suis. Alors j'invente une foule de stratégies qui relèvent de la psychologie.
Et je m'invente des noms, surtout Kierkegaard est quand même un auteur qui a procédé, qui a inventé beaucoup d'hétéronymes, qui s'est donné différents noms pour écrire.
Ah oui, bien sûr, oui, et exactement. Et ça participe de cette capacité. Alors là, c'est aussi une possibilité de la philosophie que de faire parler quelqu'un que l'on n'est pas.
Et de la littérature et de l'écriture et de la création en général.
Toute écriture est peut-être toute création, en effet, est toujours aussi création d'un autre. Et c'est ce qui donne cette capacité à la philosophie en particulier de déployer des discours même sur l'impossible, même sur ce qui est impossible à comprendre. La philosophie peut encore énoncer des choses tout à fait compréhensibles. Ça a été l'activité plénière, constante de Kierkegaard, qui toute sa vie a écrit. Mais sans jamais prétendre être ce qu'il écrivait. Et c'est contrairement à ce que l'on croit souvent, Kierkegaard est un auteur qui a un humour absolument ravageur. Enfin, et en particulier au début des œuvres de l'amour, qui est une œuvre également tardive, il écrit que rien n'est plus vain qu'un discours sur l'amour. Que aimer, c'est aimer. Ça n'est pas parler, ni écrire. Et il écrit des centaines de pages. Tout à fait légitime, parce que les œuvres de l'amour ne sont pas ce qui est écrit dans le livre qui s'appelle « Les œuvres de l'amour », bien que ce qui est écrit dans les œuvres de l'amour soit entièrement vrai.
Donc il y a deux sortes de désespoir chez Kierkegaard, celui qui naît de la volonté d'être à tout prix soi-même et celui qui naît au contraire de l'impossibilité à s'accepter tel que nous sommes. Kierkegaard parle de désespoir de l'immédiat et aussi de désespoir des filles ou désespoir du démoniaque. C'est la typologie qu'il dresse de ce désespoir. Est-ce à dire que pour... Si c'est le but, vous ne nous avez pas encore dit si c'était le but ou pas, Alain Cugnot, sortir de ce désespoir, eh bien il faut accepter, il faut essayer de coïncider au maximum avec le moi que nous avons.
Exactement. Et c'est le moment où Kierkegaard dépasse toute, comment dire, toute littérature du bien-être. Parce que s'accepter soi-même, c'est non seulement s'accepter comme rapport, mais c'est s'accepter comme rapport se rapportant à lui-même, rapport qui ne s'est pas inventé, et par conséquent, dès le moment où je m'accepte complètement moi-même, je franchis un pas supplémentaire, j'accomplis le saut de la foi, et je découvre que je ne peux avoir été inventé que par l'absolu.
Mais c'est une conception très passive de l'identité. Le moi m'a été donné, je découvre mon moi, je découvre que je ne suis pas l'auteur, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, est-ce que de deux choses l'une, est-ce moi qui me suis inventé ou est-ce que j'ai été inventé? La réponse est claire, ça ne peut pas être moi. Mais quiconque interroge son expérience est obligé de constater que dans bien des moments et à bien des périodes de notre vie, nous nous construisons sans cesse, nous nous inventons. Nous avons notre mot à dire sur notre moi.
Nous avons notre mot à dire et nous le disons constamment, mais nous sommes à la croisée des chemins entre nécessité et liberté. Et nous rencontrons les deux à la fois. Et bien malin, qui peut distinguer entre les deux? Il n'empêche que, à la racine, c'est la liberté qui veille. Mais la liberté peut très bien s'aliéner. La liberté peut se refuser. Donc, je suis constamment en train d'accomplir une sorte de pari qui est de dire, eh bien, au fond, ce que je veux, c'est ça. Ce que je veux, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, c'est pas un programme de vie, c'est pas l'application des principes, c'est la capacité de risquer à chaque moment de s'inventer soi-même. Mais s'inventer soi-même veut dire, en réalité, se laisser traverser par son origine. C'est l'acte le plus libre que je puisse accomplir. Voilà.
Avant de vous suivre dans la trajectoire qui consiste à s'accomplir soi-même pour sortir de ce constat, de ce mal-être, de ce désespoir, plongeons au fond, radicalement, avec Kierkegaard. Voici un extrait du traité du désespoir, c'est-à-dire de la maladie à la mort, puisqu'on va comprendre le point de bascule entre la vie et la mort, justement. Vous dites qu'il faut arriver à s'accepter dans son origine, mais l'origine, c'est peut-être aussi ce qui est le plus proche de ce que nous nommons la mort. Être malade à mort, c'est ne pouvoir mourir. Mais ici, la vie ne laisse d'espoir. Et la désespérance, c'est le manque du dernier espoir, le manque de la mort. Tant qu'elle est le suprême risque, on espère en la vie. Mais quand on découvre l'infini de l'autre danger, on espère dans la mort. Et quand le danger grandit tant que la mort devient l'espoir, le désespoir, c'est la désespérance de ne pouvoir même mourir. Dans cette ultime acception, le désespoir est donc la maladie mortelle, ce supplice contradictoire, ce mal du moi. Éternellement mourir, mourir sans pourtant mourir, mourir la mort. Car mourir veut dire que tout est fini, mais mourir la mort signifie vivre sa mort. Et la vivre un seul instant, c'est la vivre éternellement. Pour qu'on meure de désespoir, comme de maladie, ce qu'il y a d'éternel en nous devrait pouvoir mourir, comme fait le corps dans la maladie. Chimère. Dans le désespoir, le mourir se change continuellement en vivre. Et voilà comment, Alain Cugnot, nous pouvons passer de ce désespoir comme maladie mortelle à la possibilité de changer le fait de mourir en vie qui continue elle-même. Comment nous pouvons vivre de manière active ce passage même qui avant était le souhait de mourir et qui va devenir autre chose et qui est sans doute l'issue que nous propose Kierkegaard pour sortir, conjurer ce désespoir.
Eh bien oui et non. Parce que le moment du désespoir, c'est vraiment le moment du désespoir, c'est-à-dire l'absence d'issue totale. Et cette incapacité à mourir, qui serait de disparaître, de rejoindre le néant, cela n'est pas le désespoir. Le désespoir revit continuellement la possibilité de l'anéantissement. Alors, quand même, je crois que le rapprochement ferait bondir Kierkegaard lui-même, qui avait une idée très piètre de la mystique. Mais c'est quand même très proche de ce que dit Thérèse d'Avila, mourir de ne pas mourir. Mmh. Et c'est également très proche de ce que Jean de la Croix dit dans La Nuit obscure. Il y a vraiment une proximité très très grande. Et alors, chez Kierkegaard, qui, je pense, serait tout à fait... d'accord avec Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, au moins sur ce point, cette mort qui n'arrive pas à mourir, elle est en réalité l'absence de toute possibilité. Et là, Kierkegaard fait un petit tour chez Aristote en disant il y a une théorie aristotélicienne, qui est une très bonne théorie, qui consiste à dire qu'il y a des choses possibles et des choses réellement existantes. L'acte est la puissance. Ce qui n'est qu'en puissance est inférieur à ce qui est en acte.
La graine est l'arbre en puissance, pour
voilà,
prendre une image.
Exactement. Et l'œuf est un poulet en puissance. Et donc, la possibilité s'accomplit dans la réalité. À ceci près, dit Kierkegaard, qu'en général, on se trompe et on pense que c'est plus d'être en acte que d'être en puissance.
On pense qu'un arbre est plus qu'une graine ou qu'une poule est plus qu'un œuf.
Un arbre est plus qu'une graine. Oui, oui, dit-il, mais quand véritablement un acte est accompli, qu'est-ce qu'il engendre ? À quoi vous reconnaissez qu'un acte est accompli ? À ce qu'il rend des choses possibles qu'il n'était pas avant. Et donc, tout l'intérêt de l'acte, c'est d'ouvrir des possibles, et des possibles qui n'existaient pas. Par conséquent, la catégorie du possible, ou le concept de possible, je ne sais pas comment il faut dire, va prendre chez Kierkegaard, non pas la seconde place, mais la première place. Alors, on peut revenir un peu en arrière et dire, mais attendez, au moment où j'étais inventé, je n'étais pas possible, je suis impossible, puisque personne ne pouvait me viser avant que je ne sois devenu conscient de moi-même. Personne ne pouvait se mettre à ma place. Donc étant une chose impossible, je suis pourtant devenu réel, c'est-à-dire je suis devenu possible du même mouvement. Dès lors, la puissance qui m'a inventé, c'est la puissance du possible par excellence. Et de définir l'absolu, ou Dieu, comme étant l'inventeur du possible, le créateur des possibles. Or, le désespoir, c'est l'anéantissement de tout possible. C'est le seul acte, l'acte de désespérer, qui, au lieu d'engendrer des possibles, les supprime. C'est pourquoi on se trouve dans une impasse absolue, qui est l'impasse de la mort. L'impasse de la mort, et la mort elle-même rendue en impasse, puisqu'elle ne débouche pas, elle ne débouche même pas sur elle-même. C'est à ce moment-là que on est au sommet, on est au point de bascule, car il suffit que le moi, réduit à cet état d'impossibilité d'exister, il suffit qu'il acquiesce à la puissance qu'il a inventée, c'est-à-dire qu'il fasse le saut de la foi, qu'il acquiesce à son propre surgissement dans l'être, Mais au moment où il acquiesce à son surgissement dans l'être, en réalité, il acquiesce à l'absolu. Et il y a une sorte d'explosion qui se produit. Il devient le passage par lequel l'absolu parvient à se manifester.
Et Eva, tu la revois ? Ni elle, ni les autres. Pourquoi faire ? Bien agressif pour un homme heureux. Est-ce que tu es si content de la vie que tu mènes en ce moment ? Tu n'as plus ton œil brillant d'autrefois. J'ai vieilli. Tiens, tiens. Oui, j'ai vieilli. Je n'ai plus d'espoir, mais j'ai une certitude. Je suis sorti de ma jeunesse pour entrer dans une autre vie. Toi, tu tournes le dos. Tu refuses l'âge adulte. Tu restes enfoncé dans ton adolescence. C'est de là que vient ton angoisse. Difficile d'être un homme. Il faut avoir envie. Tu n'es pas fatigué des mirages? J'ai horreur de la médiocrité. Depuis 10 ans, tu vis dans une médiocrité dorée. J'en ai assez, justement. J'arrête. Tu vois, on a envie de la toucher. Eh bien, Paris, c'est comme elle. La vie, c'est comme elle. Tu m'énerves avec tes certitudes médiocres. Contente-toi de cette médiocrité. Et tu retrouveras peut-être ta fantaisie que tu as tellement perdue ces temps-ci. Tu refuses les certitudes parce qu'elles te font peur. Tu fais l'apologie de l'ombre parce que le soleil te blesse les yeux. Si tu es mon ami, tu m'aimes comme je suis. Je voulais que tu m'aides à mourir. C'est tout.
Tout y est dans cet extrait de Feu Follet, le roman d'Audrey La Rochelle, adapté au cinéma par Louis Malle en 1963. Alain Cugnot, le désespoir qui conduit à la mort, le reproche que l'on fait à l'autre d'être autre et donc de ne pas nous venir en aide. L'argument, on n'en a pas parlé, mais il me semble qu'il fonctionne avec le texte de Kierkegaard, de la médiocrité. Au fond, ce que nous ne pardonnons pas à l'homme et à nous-mêmes, c'est cette médiocrité.
Oui. Et Kierkegaard dit, ceux qui ont vécu médiocrement, c'est de leur faute, ça n'est pas la faute de la vie.
C'est ça. Oui. Et avec cette phrase, difficile d'être un homme, il faut en avoir envie. Tout simplement, le désespoir étant cette absence d'envie. Comment fait-on à partir de là pour effectuer ce saut, Alain Cugnot ? Comment fait-on pour effectuer ce saut vers l'absolu ? Il faut oser.
Il faut oser. Il n'y a pas de méthode, mais il y a la capacité de se mettre à l'œuvre. C'est-à-dire, je ne pourrai sortir du désespoir que par la médiation d'une activité. Je ne peux pas sortir du désespoir, je ne peux pas me donner ça comme programme. Donc, il faut que la sortie du désespoir survienne. Elle ne peut survenir que latéralement, en quelque sorte.
On en revient à Barbara, qui est ouvert cette émission. Un matin, on se réveille et c'est la joie de vivre à remplacer le mal de vivre.
C'est une des marques de la présence divine chez Ignace de Loyola, la joie sans cause. Et c'est très malin comme remarque. Et la joie sans cause, elle ne survient pas n'importe comment. Elle survient à l'occasion, pendant, en accompagnement d'une activité. Généralement d'une activité de création.
Mais puisque le désespoir et l'absence totale de toute forme d'envie de procéder à une activité, c'est contradictoire.
Non, parce que le moment où j'entre dans une activité, c'est un moment où j'ouvre les possibles. Justement.
Mais donc je ne suis plus si désespéré que ça.
Et le fait que la suite vienne, si on prend l'exemple de l'écriture, on pourrait prendre l'exemple de la musique également. Le fait que la suite vienne est donc la marque que le possible est possible. Et à cette occasion-là, je peux comprendre ou peut advenir en moi le geste par lequel je vais consentir à être moi-même. Et alors là, on peut reprendre toute la série qu'on évoquait, mais si je m'accepte moi-même, au fond, j'accepte quoi ? On pourrait le dire dans ces termes-là, plus contemporains peut-être que ceux de Kierkegaard, au fond, j'accepte la vie avec un V majuscule. Et là, je pense par exemple à Michel Henry.
Le phénoménologue.
Voilà, qui est mort il n'y a pas si longtemps et qui a écrit un ouvrage absolument génial qui s'appelle « L'essence de la manifestation » et qui est au fond une apologie de, non pas de la transcendance, mais de l'immanence.
C'est-à-dire non pas ce qu'il y a en dehors de la vie, non pas un Dieu en dehors de la vie, mais la vie elle-même.
Voilà, la vie elle-même.
De l'intérieur.
Et ce serait quand même possible de montrer que tout ce que l'immanence peut faire, la transcendance peut le faire, et réciproquement. C'est-à-dire que l'opposition entre immanence et transcendance n'est pas aussi fondamentale qu'on pourrait croire. Et dans cet acquiescement à la vie, j'acquiesce aux possibilités infinies que possède la vie. C'est-à-dire, je suis exactement dans la position de la sortie du désespoir, telle que le texte kierkegaardien décrit cette sortie.
Alors, si je résume la démarche de Kierkegaard, c'est d'abord de constater la non-coïncidence à soi, qui produit le désespoir, le désir peut-être de justement d'être soi pour pouvoir peut-être conjurer ce désespoir, mais en même temps, on ne sort vraiment du désespoir que dès lors qu'on considère que les possibles sont en dehors de nous-mêmes. Parce que ce que vous dites quand vous parlez de la vie avec un grand V, c'est qu'en fait, même en cas de désespoir absolu où plus aucun possible ne se présente à nous, il suffit de détourner le regard hors de soi pour voir que la vie, elle, continue et que la vie charrie son lot de possibles. Dès lors, pourquoi ne pas, moi, épouser ces possibles-là ?
Oui, on peut décrire la chose ainsi. Et il y a un lien extrêmement profond entre ce mouvement, ce saut de la foi et l'espérance. C'est-à-dire, non pas l'espoir, qui est l'attente de quelque chose, mais l'espérance, c'est-à-dire, on va voir ce qui va se passer, mais je parie que ce qui va se passer est intéressant. Voilà, moi je définirais l'espérance comme ça.
L'espérance, c'est de l'espoir avec beaucoup de curiosité ?
Oui, en quelque sorte. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Et maintenant, ce qui va se passer, et assurément, c'est pas la méthode Coué, mais ce qui va se passer maintenant est assurément le moment où se joue l'instant, c'est-à-dire la traversée du temporel par l'éternel.
C'est tout ce qui intéresse, qui regarde d'ailleurs cet instant où le temps et l'éternité sont en contact.
Alors à ce moment-là, nous vivons vraiment. Mais je ne peux pas le programmer. Je ne peux pas en faire véritablement un but. Et là, il y aurait un rapprochement à faire avec le plaisir chez Aristote. La sortie du désespoir se surajoute à notre vie, se surajoute à l'existence que nous menons. Et il y a quelque chose que Kierkegaard fait tout à fait ressortir, c'est que celui qui est sauvé, celui qui vit, celui qui a accompli le saut de la foi, qui vit vraiment, il est indiscernable de n'importe quel autre paroissien, on va dire, puisqu'il prend l'exemple du chevalier de la foi, qui est vraiment, c'est l'homme de la foi, il a accompli le saut de la foi, il vit pleinement, il s'accepte totalement, il est pleinement heureux, et il est indiscernable dans la foule de ceux qui chantent avec lui. On ne peut pas, il rentrera chez lui, il mangera la soupe qu'on lui a préparée. Personne ne peut déceler l'infini en lui, alors que l'infini lui est infiniment présent. Ça, je trouve ça très fort, parce que ça veut dire que la vie la plus ordinaire est aussi, recèle également dans ses possibilités d'être la vie la plus extraordinaire, c'est-à-dire une vie totalement accomplie.
Et totalement singulière.
Absolument, tout à fait.
C'est une pensée de la singularité.
Oui, oui.
Mon existence est irremplaçable, n'est pas l'existence
de l'autre. Mon existence est irremplaçable, et le point de vue que j'ai sur le monde est le seul. Enfin, je suis le seul à avoir ce point de vue. Il est tout à fait original, et ça n'a rien à voir avec le narcissisme. Le narcissisme étant au contraire la volonté de se faire cautionner par un autre dans cette existence.
Mais alors un tout dernier point qu'on va aborder ensemble, Alain Cugnot, c'est cette contradiction peut-être entre d'un côté dire que la sortie hors du désespoir n'est pas une affaire de volonté, que je peux me réveiller, on se réveille un matin, dit Barbara, et la joie de vivre a remplacé le mal de vivre, et de l'autre quand même, le saut à franchir. Il faut voir qu'il y a un saut, un pas à faire, ce saut de la foi, il faut oser le faire, et là on est d'un côté dans une grande passivité, de l'autre dans une grande activité. Comment est-ce qu'on concilie les deux ?
Parce que l'activité et la passivité s'articulent d'une manière extrêmement intime. Regardez, quand nous sommes les plus actifs, c'est lorsque nous faisons quelque chose et que ça marche. Mais de ça marche, nous n'y pouvons rien. nous le constatons.
Donc agir et prier pour que ça marche.
En quelque sorte, oui. Je ne sais pas si je dirais ça sous cette forme-là. Je dirais plutôt agir afin de dévoiler.